Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Voici le titre. C'est parti pour la 6e édition de Katanga Business Meeting. La première ministre a donné le coup d'envoi hier à Kolwezi dans le Lualaba. Thème de cette édition, bâtir notre futur, focus sur les objectifs prioritaires. La ministre congolaise aux affaires étrangères appelle les pays membres du Conseil de sécurité, dont le Rwanda, au respect du droit humanitaire international sur le sol congolais. Requête diffusée dans une chaîne de télévision allemande, Thérèse Kayikwamba participe à la conférence internationale sur le maintien de la paix à Berlin en Allemagne. Et puis, Congo Peace Network sensibilise la population à Kisangani contre le discours de haine et la désinformation. Une centaine de personnes ont participé à cette activité organisée mardi dans la commune Makiso. Pour en parler, nous recevons Héritier Mumbere, chargé des programmes à cette ONG. Madame, Messieurs, bonjour. Coup d'envoi hier mercredi à Kolwezi dans le Lualaba de la 6e édition de Katanga Business Meeting. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a procédé au lancement, placé sous le thème « Bâtir notre futur, focus sur les objectifs prioritaires ». Ce salon économique met en présence les opérateurs des différents secteurs, dont les miniers et autres, ainsi que les différents partenaires et la société civile. Pour cette première journée, les intervenants ont fait allusion au corridor de l'Obito, qui pour eux constitue une opportunité pour le développement de la RDC et non un simple couloir d'exportation des minerais. Plus de détails avec Jean Ganduka Bongo.
Pour Costa Kosaris, initiateur du Katanga Business Meeting, le corridor de l'Obito ne doit pas être une simple voie logistique pour le transport des minerais, mais une occasion pour le développement économique de la RDC. D'après lui, ce couloir peut et doit être l'épine dorsale de l'industrialisation de notre pays. Le représentant de la FEC a plaidé pour sa part pour la souveraineté économique du pays. Eric Monga a indiqué que la RDC, au regard de ses potentialités de transition énergétique, écologique et industrielle, offre une opportunité de se positionner comme un acteur central. Pour Madame Roxane de Berling, ambassadrice de la Belgique en RDC, la RDC peut profiter également de son potentiel agricole largement sous-exploité à l'heure actuelle pour lutter contre la sous-alimentation qui frappe plusieurs pays. La gouverneure du Lualaba est revenue sur l'importance du corridor qui est aussi un catalyseur de transformation locale par les effets induits, notamment la création des zones économiques spéciales, la création des gares industrielles et les centres logistiques et des chaînes de manufacturation. Fifi Masuka plaide pour la gouvernance inclusive et souveraine de ce corridor pour qu'il serve en toute priorité aux intérêts de développement de la RDC et non un simple couloir d'exportation de minerais. Et pour la première ministre, le corridor de l'Obito est un symbole d'une nouvelle dynamique d'intégration régionale pour la transformation locale de minerais en leur conférant une valeur ajoutée.
Par ailleurs, le transbordement des marchandises aux frontières lors de l'importation est une sorte de guerre menée par les pays voisins qui tue à petit feu l'économie congolaise. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Il répondait à une question orale avec débat du député national Tade Kambere dans le cadre du contrôle parlementaire. Au cours du débat à l'Assemblée nationale, les députés sont revenus sur la douane surélevée de la RDC par rapport aux autres pays limitrophes, ce qui pénalise les opérateurs économiques congolais et favorise la fraude douanière. Explication Michel Kifindangoy.
Dans sa question orale avec débat, le député national Tade Katembo fustige l'interdiction par le ministre du Commerce extérieur du transbordement des marchandises aux frontières lors de l'importation. Tade Katembo.
Comment justifiez-vous l'interdiction du transbordement de marchandises aux frontières au lieu de la lutte contre le fractionnement tel que retenu dans le programme d'action du gouvernement?
En réponse à cette question orale avec débat, le ministre du Commerce extérieur justifie la mesure de transbordement des marchandises aux frontières par le souci de faire face à la guerre économique imposée à la RDC. Julien Palou.
Les pratiques du transbordement non encadrées par la douane et surtout du fractionnement des marchandises dans les pays de transit tue à petit feu l'économie congolaise. Cela empêche aux générations futures
de tirer un jour profit des politiques publiques.
S'en est suivi un débat général au cours duquel les élus du peuple ont évoqué notamment la problématique de la gestion de la frontière de Kasumbalesa, les embouteillages de gros camions sur la route, ainsi que la multiplicité des taxes parafiscales qui favorisent la fraude douanière et la corruption.
Et dans l'affaire de construction d'une nouvelle prison à Kisangani, le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, visé par deux questions orales avec débat, les députés nationaux Fontaine Mangala et Willy Mishiki veulent tirer au clair la confusion autour du décaissement ou pas de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison sans qu'il y ait passation régulière des marchés publics. Dans sa question orale avec débat déposée hier mercredi, conformément aux articles 100 et 138 de la Constitution, l'élu de Kisangani dénonce les irrégularités qui entachent la procédure de construction de cette prison et exige des explications de Constant Mutamba. Fontaine Mangala le dit au micro de Michel Kifindangoy.
Le ministre de la Justice a conclu un contrat de gré à gré avec une entreprise totalement inconnue dans une procédure totalement irrégulière d'une somme de 39 millions de dollars. Il faudrait que le ministre de la Justice nous explique la source de ce financement, parce que le ministère des Finances explique qu'il ne connaît pas la provenance de cet argent. Et il faudrait aussi que le ministre explique de quel compte exactement 19 millions de dollars dont le paiement a été effectué à cette entreprise est venu, de quel compte. Le ministre doit venir nous informer autour du financement obtenu des indemnisations issues des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo.
Pour sa part, l'élu de Walikale dénonce des contradictions avec le communiqué du ministre des Finances et soupçonne un détournement des fonds dans cette affaire. Willy Mishiki invite le ministre de la Justice et ceux du Budget et des Finances à tirer au clair cette affaire de financement de plus de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Rendons-nous dans la province du Lualaba. La plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles condamne les actes de violence perpétrés sur le site minier de Chabara au niveau du village Kawama. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. Dans un communiqué de presse mardi, cette structure signale que des creuseurs artisanaux s'y sont soulevés et ont commis des actes de vandalisme sur le site minier. On signale des blessés et plusieurs dégâts matériels. Récit des faits avec Paulin Munanga.
Ces organisations de la société civile soulignent que le 12 mai dernier, des exploitants artisanaux qui ont initié une pétition pour revendiquer leurs droits ont vandalisé le site minier de la coopérative minière artisanale Komakat. Pour le moment, les raisons exactes de leur contestation ne sont pas encore connues. Les organisations notent qu'un dispensaire a été systématiquement vandalisé, des vitres et pare-brise de beaucoup de camions de transport de produits miniers cassés, des bureaux de la coopérative minière Komakat saccagés, des sommes d'argent, des appareils téléphoniques et d'autres biens de valeur emportés. Le communiqué signale aussi que le personnel médical et autres agents trouvés sur les lieux de travail ont été copieusement tabassés. Les organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles dans la province du Lualaba condamnent ces actes de violence et rappellent qu'un site minier artisanal n'est pas un champ de bataille ou un terrain pour se régler des comptes, c'est en revanche un espace de cohésion et d'entraide. Signalons que les services de sécurité ont mis la main sur une trentaine de manifestants et les ont présentés au ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, appelle les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont le Rwanda, au respect du droit humanitaire international sur le sol congolais. Elle a formulé cette requête lors d'un entretien accordé à une chaîne de télévision allemande, dont le contenu est parvenu ce jeudi à Radio Kapi. Thérèse Kayikwamba participe à la conférence internationale sur le maintien de la paix à Berlin en Allemagne. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayenda.
La ministre congolaise des Affaires étrangères estime que les pays contributeurs aux troupes de l'ONU sont tenus de respecter les droits internationaux humanitaires. Thérèse Kayikwamba pointe du doigt le Rwanda qu'elle accuse de violer l'intégrité territoriale de la RDC.
Nous avons une très grande mission de maintien de la paix, mais un de nos pays voisins est un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix, à savoir le Rwanda. En même temps, ce pays viole notre intégrité territoriale et ce pays aussi a été associé à des violences contre des soldats de la paix.
La chef de la diplomatie congolaise rappelle que Kinshasa est prête à poursuivre les pourparlers de paix à tant que Kigali et ses supplétifs honorent leurs engagements.
Nous allons voir si le Rwanda va honorer ses engagements, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo.
Elle souligne également que la situation des droits de l'homme reste préoccupante dans la partie orientale du pays, où l'armée rwandaise continue de commettre diverses exactions contre la population civile. Thérèse Kayikwamba a par ailleurs profité de sa présence à Berlin pour battre campagne en faveur de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU pour les mandats 2026-2027.
Pendant ce temps, en Ituri, des combats se déroulent depuis ce jeudi matin entre les FARDC et la milice Zaïre, alliée au groupe armé Convention populaire pour la révolution de Thomas Lubanga. C'est au village de Tiku, proche de Lopa, sur la route nationale numéro 27, dans le territoire de Djougou. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore disponible. Cependant, on signale le déplacement des populations, la perturbation du trafic sur la nationale numéro 27 et la fermeture du marché de Djina. Une attaque de ces mêmes miliciens mercredi à Tseng a fait 3 morts. Le récit de Isaac Remoyope.
C'est depuis 6 heures ce matin que des détonations d'armes sont attendues vers Lopa et sa périphérie. Des miliciens des Zaïre voulaient empêcher les forces loyalistes de faire des patrouilles dans cette localité et à Katoto, située à une trentaine de kilomètres au nord de Bunia, ce qui a donné lieu à des échanges de tirs entre les deux parties. Les bilans provisoires d'un des militaires des FARDC blessés par balles et les déplacements de certains habitants vers Igabarrière et Nizi, des localités proches, rapportent des sources locales. Les trafics de véhicules sur la route nationale numéro 27 et les activités au marché de Djina ont été momentanément suspendus. Les casques bleus de la MONUSCO installés à Djina se sont déployés rapidement dans la zone de combat pour la protection des civils qui se trouvaient au marché, rapporte la mission onusienne. Ces forces de la MONUSCO effectuent des patrouilles qui ont permis de rassurer les habitants qui s'apprêtaient à quitter la zone à cause de l'insécurité, mais aussi les usagers de cette route où le trafic a timidement repris vers la fin de la matinée. Signalons qu'un autre groupe de miliciens des Zaïre a fait incursion mercredi à Tchenga, 3 personnes dont 2 enfants sont mortes au cours de l'attaque. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le fonds de réparation d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC annonce pour bientôt le déploiement de ses antennes dans les provinces du Bazouélé, du Haut-Ouélé et de l'Ituri. Le Free Vao le fait savoir dans un communiqué de presse datant de mercredi 14 mai. Grâce à ce déploiement, les victimes de cette partie de la Grande Orientale pourront elles aussi bénéficier de leurs droits. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'ouverture des antennes du Free Vao dans ces provinces de la Grande Orientale s'inscrit dans la stratégie visant à rapprocher le dispositif des populations concernées, à améliorer la gestion des prochaines phases d'indemnisation et à garantir une prise en charge des proximités plus équilibrée et plus efficace, souligne les communiqués. Ce document révèle également que depuis sa prise de fonction en août 2024, le comité Chansar Bodukola a déjà versé des indemnisations à 14 309 victimes dans le cadre de la première phase. À son arrivée, seules 101 personnes certifiées avaient bénéficié de ce soutien. Cette avancée, indique-t-il, témoigne de la volonté du gouvernement congolais à traduire en actes concrets la décision de la Cour internationale de justice en veillant à l'équité, à la rigueur et à la transparence. Dans la continuité de cette dynamique, le Free Vao annonce également le traitement des dossiers des victimes omises, des cas litigieux, ainsi que l'identification des victimes absentes lors des phases précédentes. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et par rapport aux indemnisations collectives, le Free Vao annonce l'arrivée imminente du ministre de la Justice et garde des Sceaux, autorité des tutelles, afin de procéder au lancement des travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Ici à Kinshasa, l'avenue du tourisme, communément appelée Nzela Mai, dans la commune de Ngaliema, est dans un état de délabrement très avancé, une situation qui inquiète les habitants car il suffit d'une forte pluie pour que le problème s'aggrave. Embouteillage, majoration des prix de transport, refus de certains chauffeurs de transport en commun d'emprunter cette route et tant d'autres problèmes. À chaque pluie, en effet, des coulées de boue et des pierres envahissent la chaussée, rendant la circulation dangereuse. Les véhicules peinent à traverser cet axe crucial. Les piétons doivent redoubler de vigilance pour éviter des chutes. Benjamin Moudoumbi s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Un enjeu des travaux publics est envoyé après chaque forte pluie pour dégager les coulées de boue et de pierre. Mais la solution reste temporaire. Les déchets déplacés restent juste à côté de la chaussée. Et les cycles se répètent, témoigne Shekina Ruvogo, habitué de ce tronçon routier.
Chaque fois qu'il pleut, il y a des pierres qui tombent sur la route et ça barre le passage. Après la pluie, il y a deux gens qui viennent pour enlever les pierres. Malheureusement, ils ne le mettent que à côté de la route.
Face à cette problématique, Michel Ouyumbu, président de la Corporation nationale des ingénieurs des bâtiments et travaux publics, estime que certains paramètres n'ont pas été pris en compte dès le départ. Il explique.
Le problème de l'avenir du tourisme, il est dû au fait qu'on n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments dans le projet de construction de cette route-là. Est-ce que la route a été construite de manière à ce que les glissements de terrain ont été gérés? Dans ce cas-là, il aurait fallu des travaux de traitement des talus pour éviter ces glissements de terrain-là. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait sur l'ensemble du tronçon.
D'après Michel Ouyumbu, deux solutions sont envisageables. Prendre en charge toutes les eaux pour que l'écoulement ou les drainages s'effacent de la bonne manière et aussi assurer la consolidation du talus pour arrêter les éboulements.
À qui profite l'abandon des travaux de lutte anti-érosive ou de construction d'ouvrages et routes d'intérêt public qu'amorcent les entreprises chinoises avec l'accompagnement de l'OVD, Office des voiries et drainage? La question préoccupe diverses communautés, spécifiquement dans la ville de Kinshasa. Nombreux des habitants n'y trouvent pas de répondants et assistent impuissants à la dégradation de leur milieu et pire encore, des travaux même déjà exécutés. Un cas illustratif dans ce reportage que nous propose Billy Van Lutumba, qui a visité le site érosif du quartier Mbala, causé entre autres par la coupure en 2019 de la route Matadi à hauteur de la Rezapé dans la commune de Selembao. Suivez.
Février 2019, la route Matadi se coupe à hauteur de la Rezapé. Les eaux se déversent en déferlement dans le quartier Mbala. Des nouvelles têtes d'érosion s'ajoutent à celles existantes. Des nouveaux sinistres signalés. Félix Tshisekedi, à peine investi, visite son premier chantier des travaux publics et inscrit l'exécution des travaux en urgence pour la reprise de la circulation sur route Matadi et au même moment, écarter tout danger de progression des nouveaux ravins créés vers la nationale numéro 1. Plusieurs mois plus tard, route Matadi réhabilitée, un gros collecteur construit mais jamais achevé, l'entreprise chinoise répond aux abonnés absents depuis la saison des pluies du premier semestre de l'an dernier. Construire sans achever, c'est détruire, dit-on. Aujourd'hui, des bonnes distances du gros collecteur cèdent et s'écroulent du fait des vides que laissent les terres qu'emportent les grandes quantités d'eau du collecteur inachevé. Conséquence logique et directe, dilapidation des fonds décaissés du trésor public entraînant des pertes incalculables. Les riverains désemparés assistent impuissants depuis toute cette saison de pluie finissante à la perte de leurs habitations et autres biens de valeur.
Actualité internationale. Le Maroc est aux prises avec la pire épidémie de rougeole qu'il ait connue depuis des années, avec plus de 25 000 cas suspects et 184 décès signalés depuis la fin de l'année 2023. La maladie s'est propagée dans les 12 régions du pays, ce qui a incité les autorités sanitaires et les partenaires internationaux à prendre des mesures d'urgence. Selon les estimations OMS-UNICEF de la couverture vaccinale nationale, le Maroc a été en dessous du seuil de 95% requis pour atteindre l'objectif d'élimination au cours des trois dernières années.
L'invité.
Il nous vient de Kisangani, Congo Peace Network, une ONG dont le siège est à Goma, sensibilise la population contre le discours de haine et la désinformation. Une centaine de personnes, notamment les membres des structures de la société civile, la jeunesse, les victimes de guerres et conflits sociaux, ont participé à cette activité organisée le mardi de cette semaine au centre Saint-Joseph au plateau Boyoma dans la commune commune Makiso. Nous sommes bien à Kisangani dans la province de la Tchopo. Et pour en parler, nous recevons Héritier Mumbere, chargé des programmes à Congo Peace Network. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Héritier Mumbere, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qui justifie l'organisation de cet atelier?
Cet atelier rentre dans la perspective de la mission de l'organisation Congo Peace Network, qui est une structure qui travaille sur des questions de paix avec un focus sur l'engagement des jeunes dans cette question. Après toutes ces grandes années où l'Est de la République démocratique du Congo a traversé énormément de tensions, l'organisation travaille à pouvoir mobiliser et engager les jeunes sur cette question de la paix et de la cohésion sociale en République démocratique du Congo. C'est dans cette orientation-là que ce forum citoyen vient d'être organisé dans la perspective de mobiliser les forces vives de Kisangani pour faire d'eux des leviers et des moteurs de la construction de la paix.
Et c'est ça l'objectif ou les objectifs que vous poursuivez?
Tout à fait, parce que vous êtes sans ignorer que presque toutes nos provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est 30 années de guerre, de conflits, et tout cela a affecté bien évidemment le vivre ensemble. Alors l'objectif, bien évidemment, c'est de consolider encore cela et commencer à rentrer dans les moindres détails. Comment est-ce que j'arrive à savoir que tout ce que je suis en train de faire, en pensée, en parole et en action, que ça puisse servir bien évidemment de construire la paix plutôt que d'en anéantir.
Votre thème est circonscrit dans un contexte purement électoral. Pensez-vous que le moment actuel soit propice pour ce genre d'activité?
Alors, ce n'est pas seulement à très canalisé dans le contexte électoral, mais aussi post-électoral. Parce que nous avons vu tout ce qu'on a vu lors de nos périodes électorales passées. Et c'est après aussi qu'il y a comme une sorte de résultat de cela. Il y a toujours les résidus de cela en termes d'alimentation des tensions, l'alimentation de violences communautaires. Alors, avec tout ça, nous sommes en train d'agir, mais aussi dans la perspective de prévention. Parce que bientôt, sûrement, il pourra y avoir encore d'autres élections. Alors, si jamais la population elle n'est pas bien informée sur sa responsabilité dans la lutte contre ces violences électorales, ça serait un contexte compliqué, raison pour laquelle nous travaillons aussi par-delà tout à la prévention de ces conflits électoraux. Mais on est dans le contexte où on est dans l'électoral et le post-électoral.
Quelles sont les conséquences qui découleraient de la désinformation ou de la manipulation?
Alors, si jamais on n'arrive pas à bien gérer la question de l'information, vous le savez, partout maintenant, c'est des tensions avec la crise que le pays traverse actuellement. Tout le monde pense qu'il a le monopole de diffuser de l'information. Et à un certain moment, ça devient un facteur de manipulation de conscience, des esprits, et ça aboutit au finish à des violences, à des conflits. Et cela, on en a vu avec tous les grands conflits qu'on a connus, que ce soit ici dans la province de Kisangani, que ce soit sur la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maniema ou même de l'Ituri. C'est cet aspect de la mauvaise manipulation de l'information, des rumeurs, ça devient un facteur qui anéantit et casse les rouages du vivre ensemble. Et ça, il faut commencer déjà à les prévenir bien avant pour qu'enfin on puisse espérer qu'on peut vivre en harmonie et en paix, passer aux questions essentielles qui sont d'ordre du développement local.
Parmi les participants, il y a les victimes de guerre que vous avez aussi ciblées, n'est-ce pas? Pourquoi avoir pensé à elles?
Alors, vous savez, avec tout ce qu'on a connu, ce sont des femmes qui ont été violées, ce sont des personnes qui vivent avec handicap parce que ils ont été victimes de guerres, ce sont des déplacés des guerres. Alors, personne ne peut mieux penser et parler de la question de la paix comme ces gens, parce qu'ils savent ce que ça fait. Est-ce que ça veut dire les conséquences de conflits? Alors, il devient illusoire aujourd'hui d'espérer construire la paix si on n'est pas en train aussi de penser comment faire de ces victimes des artisans réels de la paix.
Comment Congo Peace Network pense lutter contre la désinformation et les messages de haine?
Alors, ça, c'est une question de la responsabilité d'ordre personnel. D'abord, il faut se rassurer qu'on a réussi à repérer les sources nécessaires, mais aussi à ne pas avoir la souplesse de pouvoir partager information, toujours est-il que se poser la question, est-ce vraiment ça vaut la peine? Et dès lors qu'on a des réponses positives sur la source, la provenance de l'information, information, on s'est déjà donné le temps de vérifier l'information, alors on peut arriver à en partager avec toujours en arrière-fond ce discernement de dire est-ce que c'est pour construire ou c'est pour détruire. Tant que c'est pour construire, je partage. Tant que c'est pour détruire, je ne partage pas.
Eric Mumbere, merci.
Merci beaucoup.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.